exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur JetFM. Nous allons vous présenter une émission sur le thème des migrants, créée par la classe des CM2 de l'école Arwis.
Dans cette émission, vous trouverez des micro-trottoirs, des interviews, des coups de cœur,
des histoires et de la poésie.
On commence direct avec un micro-trottoir pour savoir ce que les élèves de notre école savent et ressentent à propos de ce sujet.
Qu'est-ce qu'un migrant ?
Alors, un migrant, c'est quelqu'un qui fuit son pays pour aller dans un autre pays qui n'est pas en guerre.
Un migrant, c'est quelqu'un qui n'a pas de logement et qui évacue son pays parce qu'il y a la guerre. Parfois, c'est comme ça.
Il y a des migrants d'Afrique qui viennent en France.
C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son pays, s'il y a la guerre ou qu'il n'est pas bien. Il va aller dans un autre pays où il va essayer de trouver sa place et des fois, ils doivent dormir dans des tentes.
C'est quelqu'un qui est dehors et qui vient des autres pays.
C'est quelqu'un qui quitte son pays parce qu'il y a la guerre ou parce qu'ils sont trop pauvres.
Quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a abandonné sa famille pour pouvoir survivre.
Ils n'ont pas de maison trop. Faut qu'ils partent dans un autre pays parce qu'il y a la guerre.
Quelqu'un pauvre ?
Quels sont vos sentiments quand vous croisez un migrant ?
Je suis triste parce que c'est pas cool pour lui de fuir des pays en guerre.
Je suis triste pour eux.
La tristesse pour eux.
Ils sont à la rue donc ils peuvent pas trop manger.
Je me sens à leur place et je me dis que ça doit pas être facile pour eux.
J'en ai pas trop, c'est comme quand je croise quelqu'un dans la rue quoi. J'ai pas spécialement de sentiments parce que maintenant il est habitant de la France.
Bah de la peine parce que enfin c'est pas quand on voit les migrants dans les gymnases par exemple, enfin voilà quoi, c'est normalement on devrait tous les accueillir.
Je trouve ça triste qu'ils soient sachés et que tous les pays ne veulent pas les accueillir.
C'est plutôt triste parce que ils ont quitté leur famille donc ils partent.
Seriez-vous prêt à héberger un migrant ?
Oui. Comme ça, il ne sera pas tout seul dans la rue, voilà.
Oui.
Ça serait un bon geste.
Oui, parce que sinon ils auront froid et ils n'auront pas à manger, donc je serai prête à héberger.
Oui, je le fais déjà.
Non, parce que ma maison est beaucoup trop petite.
Je pense que je serai prête à le faire, parce que si ça peut les aider, en tout cas moi je le ferai.
Non.
Pourquoi pas, oui.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? S'il n'a pas de logement, autant qu'il en ait un, ça fera du bien à quelqu'un.
Mais après c'est mes parents.
Je sais pas parce que il y a plusieurs choses qui font qu'on peut pas vraiment et qu'on peut.
Non.
Moi j'en héberge des gens. Voilà.
Apportons des précisions à partir de leurs réponses. Jean, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un migrant ?
Tout à fait, Armand. Les migrants sont des personnes qui quittent leur pays pour de multiples raisons. Par exemple, la guerre, la famine, la pauvreté ou la dictature. Leur voyage peut durer plusieurs mois et ils peuvent y laisser leur vie. Ils doivent aussi traverser des frontières et c'est possible qu'ils se fassent renvoyer dans leur pays.
À Nantes, on comptait jusqu'à 698 migrants au mois de septembre installés au square d'Avier, en plein centre-ville. Après plusieurs semaines de refus, la maire de Nantes s'est finalement résolue à faire évacuer ce lieu, car les conditions dans lesquelles ces personnes vivaient n'étaient pas acceptables.
Ils ont été accueillis dans des gymnases de la ville, le temps de trouver une meilleure solution d'hébergement. Nantes sera la troisième ville qui abrite le plus de migrants après Paris et Calais.
Afin de mieux comprendre cette situation, des élèves de la classe ont rencontré Yaya, un jeune migrant qui a fui son pays et a bien voulu venir dans notre école pour répondre à nos questions.
De quel pays venez-vous ?
Je viens de la Guinée-Conakry. Il y a la Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, mais moi je viens de la Guinée-Conakry.
Quel âge avez-vous quand vous êtes parti ?
Je suis à l'âge de 16 ans.
Avez-vous quitté votre famille ?
Oui, oui.
Quel moyen de transport avez-vous utilisé ?
Je suis venu en avion jusqu'au Maroc. Après, je suis rentré en forêt. Je suis passé par la mer jusqu'à l'Espagne. Je suis venu en France.
Combien de temps a duré votre voyage ?
Ça peut faire 2, 3, 4 semaines comme ça. Hein. Tous les voyages jusqu'ici. Ouais, je crois bien. Parce que j'ai oublié. C'était longtemps. Parce que ça fait 6 mois que je suis là.
Et quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans votre voyage ?
Lorsque j'étais au Maroc, j'avais beaucoup de difficultés aux forêts là-bas. Là où j'étais, c'était aux montagnes. Pour avoir d'eau, il faut que tu descends pour chercher les eaux. Et encore, pour aller chercher l'eau pour boire, parce qu'il y a les policiers pour vous chercher là-bas. Il y a des gardes là-bas, quoi, gardes. On a vécu beaucoup de difficultés à la forêt là-bas. Mais heureusement pour moi, je n'ai pas duré là-bas. Dieu m'a aidé, j'ai passé à la mer pour venir à l'Espagne.
Est-ce qu'il y a eu des morts ? Sur le voyage ?
Non, non.
Non.
Du coup, quand même, dans mon bateau, on avait perdu sur la mer. On avait perdu le capitaine de Jack. Pour moi, c'était fini, quoi, pour moi. On était perdu dans la mer, on ne savait pas où on partait. Quoi.
Et tu te souviens combien vous étiez sur ce Zodiac ?
Oui, on était au nombre de...
À peu près 30 ?
Oui, 30 quelques, ouais. Mais vers à la fin, on a vu un grand bateau. Donc on s'est dirigé vers le bateau là, auprès du bateau. Mais quand on s'est dirigé le bateau aussi s'enfuit. Il avait peur quoi. Vers la fin, il s'est arrêté, on s'est apprécié, on est parlé, il nous a demandé. Après, il a appelé le capitaine du bateau, il a appelé l'aide pour nous prendre. Voilà, les Espagnols sont venus pour nous prendre.
D'accord.
Ça fait à peu près quelle taille un Zodiac ?
C'est un petit bateau, un Zodiac. Hein.
Oui, c'est pas grand comme ça. Hein. Comme
aussi.
Ça, long comme ça. Avec les grandes vagues, avec les gros poissons.
Les dauphins ?
Dauphins, oui.
Ouais. L'année dernière, il y a...
Tu n'étais pas là-bas ?
Non, un autre garçon de l'année dernière qui nous a raconté qu'au départ, ils ont vu les dauphins, ils ont eu très peur des dauphins, et en fait, ils se sont aperçus que les dauphins les guidaient vers le rivage.
Aussi, quand tu vois le dauphin, la route qu'il suit là, il faut suivre là où il va. C'est le guide.
Est-ce que pendant ton voyage, tu as pu quand même dormir et manger ?
On avait les manger dans le bateau, mais on n'a pas pu dormir. Hein. Tu ne peux pas dormir. Avec la peur, tu ne peux pas dormir dans le bateau.
Est-ce que tu sais nager, Yaya ?
Je ne sais pas nager.
Vous êtes parti tout seul ou pas ?
Ou tu avais d'autres...
J'étais seul.
Seul ? Ouais, il n'y avait pas d'autres jeunes avec toi ou
Non, j'étais seul.
Voilà. Et tu as retrouvé au Maroc ?
Oui, j'étais avec une dame. J'étais avec une dame, oui.
Que tu connaissais ?
Je ne le connaissais pas, mais j'étais avec elle. Mon frère le connaissait.
Et après au Maroc, tu étais avec d'autres, un groupe ?
Oui, dans la forêt.
Oui.
Ouais, il y a plein de personnes dans la forêt. Hein.
Mm. Ouais. Et il y avait d'autres jeunes ?
Oui.
Mais que tu ne connaissais pas ?
Non. Il y a plein de personnes dans la forêt là-bas. Des Ivoiriens, Guinéens, Tchadiens, beaucoup.
Des frères et sœurs ?
J'ai une seule sœur et trois frères. Je suis le dernier fils de la famille. J'ai un frère, je suis plus gros que lui. Quand il est là, je suis là, là. Ils vont dire que je suis plus âgé que lui, quoi.
Envisagez-vous de revoir votre famille?
Je sais, je suis à l'aventure. Mmh. Maintenant, là, je ne peux pas voir mes amis, mes parents. Mmh. Voilà. L'aventure, pour moi, je peux dire, ça n'a même pas commencé, quoi. J'ai envie de voir mes parents, mais après, quand même, à chaque fois, je me souviens à mes parents quand même. Mais je sais, je n'ai pas de choix pour les voir pour le moment. J'ai envie de les voir, mais...
Arrivez-vous bien à vous intégrer à Nantes?
Je vais passer un peu en arrière. Dans mon aventure, moi, dans mon rêve, c'était de venir en France, quoi. C'était pas de rester de l'Espagne ou Allemagne ou Amérique ou Maroc comme ça. C'était de venir en France. Vous comprenez bien? Donc, depuis que je suis sorti, c'est la France que je cherchais dans mon aventure. Et je suis arrivé en France. C'est à Nantes que je me suis bien installé, quoi. Je me suis senti bien, quoi, à Nantes. Ça fait 6 mois que je suis à Nantes ici. Hein.
Que voudriez-vous faire comme métier plus tard?
J'ai choisi la restauration. J'aimerais faire ça. Je suis très content d'être là ce matin avec les enfants. Je suis content. Merci.
Merci.
Suite à cette belle rencontre, Héloïse a écrit un poème que nous allons maintenant écouter. Une lecture à deux voix avec son amie Prudence.
Adieu.
Partir. Mourir. Fuir. Venir. Courir. Souffrir.
Ils partent autre part.
Sans même dire au revoir.
Quittent les gens qu'ils aiment.
Voyagent dans des conditions extrêmes.
Pour ça, il faut de la patience
et surtout du silence.
Ils sont arrivés, ils deviennent des réfugiés.
Merci les filles pour cette poésie. Pour continuer l'émission, nous nous sommes posé des questions sur l'éducation des migrants mineurs. Ont-ils le droit d'aller à l'école?
Est-ce que c'est dur? Pour le savoir, nous avons interviewé Marie et sa collègue qui sont bénévoles à l'école GEM, J-E-M, une école pour migrants.
Pouvez-vous nous présenter votre association collective?
Alors, ce n'est pas une association, c'est une. On est logé par une amicale laïque, l'amicale laïque des Ponts, qui nous. Donc, on est une section d'une amicale laïque. Et il y a 3 ans, une dame qui s'appelle Janine, qui n'est pas venue là, a eu l'idée de dire, de vouloir faire une école pour tous les jeunes migrants isolés qui se trouvaient à Nantes et qui n'avaient pas de possibilité d'aller à l'école. Isolés, ça veut dire qu'ils sont arrivés sans leurs parents. Elle s'est appelée cette école, au départ, école populaire pour les jeunes migrants isolés. C'était trop compliqué. Alors on l'a appelée jeunes migrants et JM, ça donnait JEM.
Pourquoi elle a voulu faire ça?
Vous tous, vous êtes jeunes. Vous avez peut-être des grands frères et des grandes sœurs. Et pour tous les enfants, le droit à l'école est un droit international signé par une convention que beaucoup de pays ont signée, la France, qui dit que tout jeune mineur a droit à l'école, quel que soit son statut. Et en France actuellement, ces jeunes migrants ne sont pas scolarisés. Donc on a trouvé que ce n'était pas normal. Et comme on n'avait pas de réponse aux questions que l'on posait aux institutions, on a décidé de faire une école.
Comment avez-vous eu l'idée de créer cette association?
Les jeunes comme Yaya, ils n'ont pas de maison. Ils arrivent, ils sont logés dans la rue, ou dans des hôtels tout seuls, ou dans ce qu'on appelle des squats, des endroits où on loge comme on peut. Des associations logent comme ils peuvent ces jeunes. Donc quand ils se sont levés un matin, ils n'avaient rien à faire. Pas d'école, pas de maison. Et donc, ils ne faisaient rien. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas à se nourrir. Donc il fallait trouver des gens qui les hébergent. Vous avez vu une dame qui a hébergé. Moi aussi, j'héberge un jeune migrant avec Janine. Il fallait leur trouver à manger. Ce sont d'autres associations qui s'en occupent. Et puis, pour les occuper et pour qu'ils continuent à faire leur métier d'enfant, le métier d'enfant, c'est d'aller à l'école, on a créé cette école. Mais ce n'est pas une école comme ça, malheureusement.
Êtes-vous en lien avec certains migrants, avec d'autres associations d'aide aux migrants?
Oui, on est en lien avec d'autres associations. Déjà, tu vois, la dame qui est venue tout à l'heure là, pour l'hébergement, en lien aussi avec des associations pour la nourriture.
Tout ce qui est juridique,
voilà,
les papiers.
Les papiers, les avocats qui aident les jeunes en fait à avoir des vrais papiers pour pouvoir rester en France. Et aussi avec des associations comme Médecins du Monde, par exemple, pour le côté santé aussi.
D'où viennent les migrants qui apprennent dans votre association ?
Alors, principalement de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Tchad, Guinée, Libéria. On a aussi deux élèves qui viennent du Bangladesh.
Quelle méthode utilisez-vous pour leur apprendre le français ?
Alors, on utilise une méthode active. Une méthode active, ce n'est pas la méthode qu'il y a dans les livres. Pour faire très court, on se sert de ce que eux savent et pas de ce que nous on sait. Et on s'adapte à ce que eux savent pour leur apprendre le français. On leur apprend à lire. Donc pour lire, il faut connaître des sons. Donc on va apprendre des sons. Et c'est avec ces mots-là qui viennent d'eux qu'on va apprendre petit à petit à lire, à écrire. Et c'est plus actif et plus efficace que de passer par ce que nous on sait, parce qu'ils savent beaucoup de choses. Ils ont vécu beaucoup de choses et ils ont appris beaucoup de choses pendant le trajet pour venir jusqu'ici. Et puis aussi, ils ont appris un peu chez eux quand même. Hein.
De combien de migrants votre école s'occupe-t-elle toute l'année ?
Alors, depuis qu'on a ouvert l'école il y a 3 ans, on ne doit pas être loin maintenant des 80. Mais on n'en prend qu'au maximum. Là, on est au maximum en ce moment. On ne peut pas dépasser 20. Mais sachant que dès qu'un jeune est reconnu comme mineur par l'État, il est pris en charge et donc il ne reste plus à notre école, puisque normalement il doit être scolarisé. Ce qui fait qu'on tourne toute l'année avec des jeunes qui rentrent et des jeunes qui s'en vont. En moyenne, on en a 35 par an. Mais en ce moment, on en a 19.
Quel est leur âge en moyenne ?
Le plus jeune avait 15 ans jusqu'à leur majorité, 18.
Comment peut-on faire pour vous aider ou soutenir l'association ?
Si on pouvait être d'autres bénévoles, ce serait bien. Et puis, on a toujours besoin d'argent. L'argent, ça va nous servir dès le matin, quand les jeunes arrivent, il y a le petit déjeuner. Parce que souvent, s'ils étaient en squat, ils n'ont pas déjeuné, donc ils commencent par manger. Déjà, c'est important parce que c'est un moment convivial, on est tous ensemble. Ça fait partie des choses dont on a besoin, c'est d'argent pour le petit déjeuner. Puis une sortie au musée, il faut la financer aussi, plein de tout ça.
Et puis, en lien avec ce que vous avez écouté avant, oui, avec la personne, on a besoin aussi que des gens hébergent les jeunes parce qu'ils sont en situation beaucoup plus facile et rassurante quand ils sont en famille, plutôt que quand ils sont tout seuls dans un hôtel.
Pensez-vous que cette école leur permettra de fonder un bel avenir ?
On espère, on le veut, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, on veut que... On veut leur bonheur, en fait.
Où vont tous ces migrants, dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs qui ont fui leur pays. Ces enfants de 16 ans qu'on voit cheminer seuls. Ils s'en vont dans la rue pour trouver un abri.
Ils vont, de l'aube au soir, chercher à manger, dans ces rues où personne ne veut les héberger. Assis sous l'ombre des immeubles où des gens dorment en paix. Mais eux, ils dorment sous le froid et la souffrance.
Merci Hector et Étienne pour ce poème. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur comment vous est venue votre inspiration ?
Moi, j'ai Mélancolia de Victor Hugo qui m'a donné cette inspiration et envie de faire un peu pareil, mais en moins long.
Très bien, maintenant nous partons pour le Burkina Faso avec Pierre Sandouidi et son morceau « Marie et tout ».
J'ai choisi la nuit, oh oui, Marie et tout. J'ai choisi la nuit.
Écoutons une histoire écrite par des élèves qui nous racontent le voyage d'un migrant qui a fui son pays.
Je m'appelle Yaya, j'ai tout juste 16 ans. J'habite en Guinée. Tout est calme dans mon village. Je m'ennuie. Avant, j'allais à l'école, mais à la mort de mes parents, ce n'était plus possible. Mon voisin, Mohamed, nous a alors recueillis, mes frères, sœurs et moi. Mais il ne pouvait pas nous payer l'école. Un matin, je me suis réveillée et Mohamed m'a alors annoncé que je devais partir en France. Trouver du travail, car il avait besoin d'argent.
Là, il m'explique qu'il ne peut plus nourrir tout le monde. Alors, j'accepte. Je suis triste, inconsolable. Quitter des personnes que l'on aime fort, ce n'est pas toujours facile. Mais je pars. D'autres personnes du village partent aussi. Je décide donc de les suivre. En ce moment, je suis dans le désert. J'essaie d'arrêter de penser à ma famille. C'est dur. Aïe ! Je trébuche, m'évanouis.
J'ai peur. Soif, faim, chaud. Des gens m'ont heureusement porté. Je suis un peu rétabli. J'ai envie de revoir ma famille. Nous sommes en train de marcher péniblement dans le désert. Oh ! Je vois de l'eau !
Nous courons vers cette oasis. Nous courons longtemps, longtemps, mais l'oasis paraît toujours aussi loin. Alors, quelqu'un réalise que c'est un mirage. Nous nous remettons à marcher normalement.
Après tous ces jours de marche, j'aperçois enfin la mer. Fatiguée, je décide de m'asseoir. Un homme intrigué s'est alors approché de moi. Il me demande pourquoi je suis aussi fatiguée. Je le regarde sans lui répondre. Je me lève et alors des souvenirs me reviennent. C'était triste, je ne voulais plus y penser. Alors j'ai décidé de rejoindre les autres.
La nuit commençait à tomber. J'aperçois alors un bateau. L'espoir m'envahit, mais au bout de quelques minutes, il fait demi-tour. Puis je vois un canot qui arrive. Il accoste sur la plage et il nous fait signe de monter. Mais avant, il veut être payé. Nous devons lui donner tout ce qu'il nous reste. Le bateau commence à partir. J'ai peur de tomber, de me noyer. Épuisée, je m'endors.
Des cris stridents m'arrachent de mon sommeil. Autour de moi, c'est la panique. Des ailerons nous encerclent. Mais quelqu'un réalise que ce sont des dauphins qui ne souhaitent que nous guider vers la côte italienne. L'accostage sera difficile et discret, direction la France.
Après tous ces jours de marche, enfin, je suis à la frontière. Mais maintenant, c'est beaucoup plus dangereux. Je dois faire plus attention, car les douaniers sont très nombreux. Parfois, je tombe. Des fois, il y a des éboulements. Je n'ai rien pour me couvrir. Plus aucun souvenir de mon ancienne vie. Je n'ai qu'une photo de ma famille, qu'une seule.
Tous les soirs, nous dormons à la Belle Étoile. Nous avons froid. Je repense tout le temps à mes compagnons qui ont disparu pendant tout ce long trajet. Par moments, tout le monde se met à courir. Les douaniers surgissent, on se cache, on repart. Mais ça y est, je suis arrivée en France. La route est encore longue jusqu'à Nantes.
Je suis épuisée, j'arrive à Nantes. C'est la nuit, mais je dois malheureusement continuer pour trouver un endroit où dormir. Quelques heures plus tard, j'ai découvert enfin un endroit inhabité et j'y rentre par effraction en cassant la fenêtre de derrière pour ne pas être vue. Là, je peux enfin me reposer. Le lendemain matin, je quitte cette maison et je décide alors de chercher quelqu'un qui puisse m'aider. Alors je marche, j'erre pendant très longtemps dans les rues de Nantes.
Soudain, j'aperçois quelqu'un assis par terre en train de mendier. Il a lui aussi l'air d'un migrant. Alors je vais lui parler. Je lui demande s'il n'a pas un endroit pour moi. Il me dit de venir avec lui.
Il m'emmène dans un endroit où il y a beaucoup de migrants. C'est une association. Là-bas, je suis pris en charge et nourri. Je ne remercierai jamais assez ces personnes pour leur aide. Grâce à elles, je peux enfin espérer une vie meilleure.
Si cette histoire vous a intéressé, Cerise et Héloïse vont maintenant vous présenter plusieurs livres sur ce même thème.
Alors moi, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Planète Migrant de Sophie Lamoureux, illustré par Amélie Fontaine et édité par Actes Sud Junior. Il donne beaucoup de vocabulaire et on y apprend plein de choses, par exemple comment deviennent-ils français, quelles sont les causes de leur fuite, etc. Donc je recommande ce livre aux petits comme aux grands qui ont envie d'en savoir plus au sujet des migrants.
Chemin des dunes sur la route de l'exil est un livre que j'ai bien aimé. Il est écrit par Colette David, illustré par Nathalie Dieterlé et édité par Gauthier Langereau. J'ai choisi ce livre, donc c'est une histoire vraie, racontée par une petite fille de 7 ans qui a dû partir de son pays et nous raconte le voyage de son point de vue. Ce livre m'a beaucoup touchée parce que c'est bien écrit et très émouvant. Et je conseille donc ce livre aux personnes qui veulent savoir comment se passent certaines migrations.
Les Trois Étoiles est une histoire que j'ai lue et bien aimée. Elle est écrite par Gwenaëlle Boulet, illustrée par Aurélie Neyret et éditée par Bayard Jeunesse. Ça raconte l'histoire de Tarek qui est syrien. Depuis que la guerre a éclaté, son pays est devenu dangereux et ses parents décident de fuir pour la France. Avec la famille de son meilleur ami, Ahmed, ils se mettent en route. Tarek laisse derrière lui sa maison, ses affaires et son autre meilleur ami, Elias. Un long et dangereux voyage les attend jusqu'à Paris. C'est une histoire très émouvante où l'on assiste à la migration d'une famille. C'est très bien pour les enfants et je vous le recommande.
Merci les filles, je vous rappelle les titres de ces livres. Planète Migrant de Sophie Lamoureux, illustré par Amélie Fontaine, chez Actes Sud Junior. Chemin des dunes sur la route de l'exil, un album écrit par Colette Huse David, édité par Gauthier Langereau.
Et enfin, le roman de Gwenaëlle Boulet et Aurélie Neyret,
intitulé Les Trois Étoiles que vous trouverez chez Bayard Jeunesse.
Toutes ces histoires, ces parcours de migrants, sont difficiles et certaines personnes ont décidé de les aider.
Notamment en leur proposant un hébergement.
C'est le cas de la famille de Lisa, qui est une élève de notre école.
Elle a bien voulu répondre à nos questions aux côtés de sa maman afin de partager son expérience.
Comment vous est venue l'idée d'accueillir un migrant ?
Par un collectif qui s'appelle les Hébergeurs Solidaires et une amie qui hébergeait déjà un jeune chez elle.
Êtes-vous aidée par des associations dans cet accueil ?
Alors au début, oui, puisqu'on est passé par donc, un collectif. Ce n'est pas une association, en fait, c'est un regroupement de personnes qui ont trouvé que c'était trop injuste d'avoir tous ces jeunes dans la rue et qui ont décidé de proposer aux gens qui avaient de la place chez eux de recevoir ces jeunes-là. Et donc du coup, au début, ils nous mettent en relation avec les jeunes qui ont besoin d'être hébergés. Ils nous donnent quelques conseils, mais comme c'est qu'un collectif et que c'est pas une association, après, chacun gère un petit peu l'accueil comme il le sent.
Depuis combien de temps il vit chez vous ?
Je crois que ça fait 2 ans.
Oui, effectivement, ça fera 2 ans au mois de mars qu'il est arrivé à la maison.
Lisa, quelle a été ta réaction quand tes parents t'ont annoncé le projet ?
J'étais plutôt contente qu'il y ait moins de jeunes déjà dans la rue. Et puis, je trouve ça plutôt bien, cette idée.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien ?
Alors, il faut s'adapter à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui arrive et qui a une histoire un petit peu difficile. Et voilà, il faut apprendre à vivre avec quelqu'un de nouveau, qui ne parle pas forcément bien français et qui ne connaît pas les codes de la France, qui arrive avec les codes de son pays. Et du coup, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Nous, on est toujours en train d'apprendre, en fait. On apprend tous les jours avec Mohamed, et Mohamed apprend aussi tous les jours.
Que diriez-vous à une famille qui hésite encore à héberger quelqu'un ?
Moi, je lui dirais plutôt qu'il faudrait essayer. Après, si ça ne leur plaît pas, ils font ce qu'ils veulent.
Alors, Lisa, elle a tout à fait raison. Après, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'une fois qu'on a commencé à recevoir quelqu'un chez soi, on s'est un peu engagé avec cette personne. Et puis, on sait que si ce jeune-là, il n'est pas chez nous, il retourne dans la rue ou dans un squat. On l'héberge avec 2 autres familles. Il est quelques mois à la maison et après, il va dans une autre famille quelques mois et dans une autre famille quelques mois. Et du coup, ça, c'est important quand on se pose la question d'accueillir, c'est de trouver des solutions pour que ça puisse se passer au mieux pour tout le monde. Et donc, avoir quelqu'un chez soi tout le temps pendant 2 ans, ça peut être assez compliqué. Là, le fait d'être 3 familles à l'accueillir, ça fait qu'on l'accueille 2-3 mois. Lui, il prend ses habitudes, nous aussi, ça se passe bien. Et puis, au bout de 2-3 mois, il va dans une autre famille. Et donc, du coup, nous, on se retrouve en famille, tous les 4. C'est vrai qu'il a beaucoup d'activités et puis depuis le mois de septembre, il va à l'école. Donc du coup, toute la journée, il est à l'école. Et puis comme il aime beaucoup le foot, le soir, il mange des fois avec nous, des fois pas, mais il va voir le foot avec ses copains. Donc c'est vrai qu'on ne le voit pas très très souvent. La journée, il est à l'école et le soir, il va regarder des matchs de foot. Et le week-end, il a plein d'activités dans des associations à Nantes. Là, il travaille à Pollen sur une pièce de théâtre qui parle justement de la situation des migrants. Il fait beaucoup de bénévolat aussi dans des associations. Et puis, il va aussi jouer au foot avec ses copains.
Est-ce que des fois, vous avez peur ?
Oui et non. Disons qu'on peut avoir une petite appréhension au début, une petite inquiétude, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on va donner les clés de chez nous. Il y a des familles qui, au début, ne donnent pas les clés, mais nous, on s'est dit qu'on allait faire confiance dès le début et puis donner les clés. Mais c'est vrai que nous, ça s'est bien passé. On a des exemples qui se sont bien passés. Après, oui, on ne sait pas trop, comment ça peut se passer. Mais après, assez vite, on s'est rendu compte que c'était un très gentil garçon. C'est un adolescent. Hein. Il arrivait à la maison, il avait 17 ans. Lui, il fait très attention, il est très respectueux parce que... quand il arrivait chez nous, il dormait dans la rue avant. Donc il était très content en fait d'être dans une maison. Et donc du coup, normalement, plutôt il fait plein d'efforts pour que ça se passe bien.
Quelles sont les choses positives que cet accueil vous apporte ?
Ça fait que parfois on peut jouer avec lui, mais bon, enfin on peut pas le faire souvent parce qu'il est pas souvent là. Mais ça fait plaisir d'accueillir quelqu'un à la maison.
Et puis des fois, on a eu des conversations aussi sur son pays, sur comment ça se passe. Quand Lisa, elle a parlé de l'école dans le monde à l'école, justement, elle a pu échanger avec Mohamed pour savoir comment ça se passait l'école en Guinée, puisque Mohamed vient de Guinée-Conakry.
Et si on veut contacter le collectif, comment il s'appelle, comment on peut faire
Alors, c'est le collectif des hébergeurs solidaires. Ils ont une page fermée Facebook dans laquelle on peut être invité. Sinon, il y a une adresse mail. Et donc, voilà, c'est par ça qu'on rencontre les bénévoles qui s'occupent de faire vivre l'association. Eux, ils sont en relation avec des associations à Nantes qui accueillent les jeunes. Et donc, ils savent à peu près qui est dans la rue, où ils répartissent les jeunes dans les familles. Il y a des plannings au départ, parce que souvent, en fait, c'est quand même plusieurs familles qui accueillent un jeune. C'est rare qu'il y ait une seule famille qui accueille toute seule un jeune. Beaucoup, ça peut être aussi juste sur un canapé pour trois nuits. Mais voilà, dans ce collectif, en fait, chacun choisit sa façon d'héberger. C'est un peu les limites de l'exercice, d'ailleurs. Là, c'est vraiment un regroupement citoyen un peu spontané. Qui s'est fait quand il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés dans la rue. Et donc, voilà, c'est un peu... chacun gère comme il le sent.
Merci.
De rien.
Et voilà, l'émission se termine. Nous vous remercions, chers auditeurs, pour votre attention.
Un grand merci aussi à Yaya pour sa gentillesse aux bénévoles de l'école Jeanne.
À Lisa et sa maman pour leur disponibilité et pour tous les éclairages qu'elles ont bien voulu nous apporter.
Et bien sûr, à Julie de JetFM qui nous a aidés à préparer cette émission.
On se quitte avec un dernier poème écrit par Cerise qu'elle nous lit avec Léonard. Merci à tous et au revoir.
Au revoir.
Vérité, un pas puis un autre.
Toujours avec cette peur
qui leur mitraille le ventre,
bien caché au fond du cœur.
Ils fuient leur pays pendant la guerre,
puis se retrouvent dans la misère.
C'est une situation très compliquée,
car ils deviennent des réfugiés.
Ces gens-là rencontrent parfois des murs,
mais peu de gens sont là pour les aider, c'est sûr.
Alors tous ensemble, prenons du temps
pour soutenir les migrants.